France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le président du MEDEF. Vos questions au 01...
Oui,
MEDEF, voilà. Vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Inter. Le verbe est encore à la une de toute la presse ce matin. Le verbe employé hier par Emmanuel Macron pour décrire sa stratégie à l'égard des Français non vaccinés, les empêcher d'aller au resto, au ciné, de boire un canon, bref, les emmerder et continuer à le faire. Je ne reviens pas sur la bronca à l'Assemblée nationale, sur la vie de tempête, sur les plateaux de télé, mais comment le président du MEDEF a-t-il apprécié les mots du président de la République ?
Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce qui se passe en entreprise, parce qu'il y a 5 millions, je crois, de Français non vaccinés. Il y en a, on pense, à peu près 2 millions qui sont des actifs, donc ils sont nos salariés. Ça fait 5-6%, évidemment, ça dépend des entreprises. J'étais l'autre jour avec un patron là qui me disait qu'il a une boîte de 15 personnes, il avait une salariée en l'occurrence qui ne voulait pas se faire vacciner, et donc elle est isolée dans un bureau, et bon, ils ont trouvé une solution pragmatique, donc c'est comme ça que ça se passe en entreprise. Alors, est-ce que c'est emmerder les salariés non vaccinés? Pas vraiment,
dire,
c'est trouver des méthodes.
Est-ce que vous aussi
pratiques.
Vous emmerdez les salariés non vaccinés?
Non, justement, on essaie de trouver une cohabitation. C'est pour ça qu'on n'était pas favorable au pass sanitaire en entreprise. Parce que au-delà des problèmes opérationnels dont on pourra parler, c'est une sorte de déni, enfin d'exclusion de la société. Or, je ne crois pas qu'on en soit là. Vous savez, il y a des vaccins obligatoires en France, mais on dit vaccin obligatoire. En fait, en réalité, il n'y a pas de pénalité, d'amende, de sanction, de justice. Il y a le fait d'être privé d'un certain nombre de choses, par exemple les enfants à la crèche. Priver les gens de travail parce qu'ils sont pas vaccinés me paraissait pas la bonne solution. Et ça se passe, il y a sûrement des cas où ça se passe mal, hein, mais globalement, en entreprise, on arrive à trouver des solutions.
On va y revenir. Un mot encore sur le président de la République. Est-ce qu'il est clair pour vous, désormais, qu'il est candidat à sa réélection, ou est-ce que vous avez encore un doute existentiel?
C'est à vous de répondre à cette question, pas à moi. Je
ne
suis pas commentateur politique.
Vous avez
donc,
lu le Parisien comme moi.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, je pense, mais ce n'est pas moi qui suis spécialiste de ce genre de sujet.
Alors, après le théâtre parlementaire, le fameux pas a été adopté ce matin en première lecture. Il va donc, le pass vaccinal remplacer le pass sanitaire pour accéder aux foires, aux salons, aux rencontres professionnelles. C'est une bonne chose, c'est un bon outil.
Tout ce qui est privation de liberté, globalement, on n'en a pas envie. Mais dans les circonstances actuelles, avec l'incroyable diffusion de ce variant Omicron, c'est la moins mauvaise des solutions. On sait gérer ce genre de choses dans tous les endroits qui reçoivent du public. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que sur les jauges, dans un certain nombre de cas, ça rend l'exploitation pas possible.
Par exemple,
donc
on rappelle les jauges, voilà, limitation des rassemblements à 2000 personnes en intérieur, à 5000 en extérieur.
Des concerts à 2000 ou à 5000, c'est pas possible économiquement. C'est-à-dire que le coût d'installation, donc, c'est des entreprises, tout l'événementiel qui vont sur le mois de janvier, février, peut-être mars, énormément souffrir. C'est pour ça qu'on est allé voir Bruno Le Maire lundi.
Il a lâché
pour lui demander. Oui, alors c'est pas le retour du quoi qu'il en coûte, comme je l'ai lu partout, c'est du sur-mesure, quoi qu'il arrive, ces secteurs qu'on a aidés, qui sont évidemment en grande difficulté, on les aide à passer la vague suivante.
Parce que vous voulez absolument pas le retour du quoi qu'il en coûte, vous?
Non, je crois que c'est pas une bonne idée. D'abord, parce que l'économie se porte, en dehors de ces secteurs, plutôt bien. En même temps, ces secteurs de l'événementiel qu'on a aidés, par exemple, leur tirer le tapis sous le pied maintenant, alors qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour maintenir ces entreprises à flot, pour maintenir les emplois, ça serait absurde.
Bruno Le Maire dit par ailleurs que la croissance ne sera pas affectée par le variant Omicron. Êtes-vous confiant pour le moment, Geoffroy Roux de Bézieux? Et si jamais cette cinquième vague venait à durer, est-ce que la reprise pourrait de fait dérailler?
Il y aura un impact sur janvier, ça c'est sûr et certain. Ne serait-ce que parce qu'il y a un petit phénomène d'autocensure dans la consommation. On va moins au restaurant, on va moins dans les magasins, parce que tout simplement les gens, à juste titre, hein, d'ailleurs, limitent leurs interactions sociales. Si ça dure que le mois de janvier, on peut être raisonnablement optimiste. Les fondamentaux de l'économie française, européenne, sont plutôt bons. Il y a d'autres problèmes dont on pourra parler, mais oui, l'économie se porte bien. Maintenant, je suis comme vous, s'il y a une sixième vague avec une autre lettre grecque que je connais pas encore, voilà, j'ai cette phrase,
variant
tout le monde l'a dit,
epsilon,
mais c'est le virus qui décide, hein, et ni vous ni moi, on peut vraiment se prononcer
mais
là-dessus.
Mais la grande désorganisation de la société que craignait le Conseil scientifique avant Noël, est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'il y a déjà des remontées ou pas du tout?
Non, d'abord, moi j'étais un peu, comment dire, surpris par cet avis du Conseil scientifique, parce que autant j'ai pas d'avis sur le côté scientifique, autant là on parle d'économie, et je crois pas qu'il y aura une grande désorganisation.
Vous avez été choqué par le terme,
non,
c'est ça?
Non, pas choqué, mais je pense que c'est quelque chose qui faut pas faire peur aux Français de dire qu'il y aura plus, je sais pas quoi, de pâtes ou de riz dans les supermarchés, on n'en est pas là. Mmh. Alors moi j'ai interrogé mes adhérents là cette semaine, on commence à percevoir un tout petit peu effectivement l'impact d'Omicron dans des absences. Là, j'étais...
C'est ce que j'allais vous dire, est-ce que vous avez déjà des remontées sur, sur l'absentéisme depuis le début de la reprise là,
j'aime pas beaucoup ce mot absentéisme, mais il y a des arrêts de travail justifiés ou des... Vous savez, les fameux cas contact. On a changé le nombre de jours. Il y a quelques frémissements dans les transports. Là, j'étais un autre exemple d'une entreprise d'agroalimentaire en Loire-Atlantique. La moitié de son personnel sur 30 personnes qui est cas contact ou covidé. Mais pour le moment, il n'y a pas une augmentation massive de l'absentéisme. Donc, il n'y a pas de désorganisation. Je reste très prudent parce qu'on sait tous autour de nous, on le voit, que la diffusion est quand même absolument spectaculaire.
Et puis il y a aussi l'obligation de 3 jours de télétravail sur 5 dans les entreprises où c'est possible, évidemment. Avez-vous là aussi sur ce sujet déjà des remontées de terrain? Les entreprises jouent le jeu?
Mais bien sûr, elles jouent le jeu. D'ailleurs, je vais citer les propos de Madame Borne. Je crois, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs. La très grande majorité des entreprises jouent le jeu. Donc,
qui ne joue pas le jeu, alors?
Ben, je sais pas. Mais on lui a demandé, d'ailleurs, de nous donner des exemples. Je sais pas. Il y a un débat, qui est un vrai débat, sur certains postes sont-ils télétravaillables ou pas. Et là, alors, il faut être technique 2 minutes. On peut travailler à distance, par exemple, quand on est dans une agence bancaire, pour prendre cet exemple-là, parce qu'on a accès au compte. Sauf que si vous le faites depuis votre ordinateur personnel à la maison, il y a un problème de sécurité des données. Donc, on peut être travaillable à distance, mais pas télétravaillable chez soi. Donc, c'est ce type de débat qu'il y a eu. Mais honnêtement, c'est pas le sujet. Et puis, de toute façon, le télétravail, c'est bien pour limiter les interactions sociales, hein, mais c'est pas ça qui va convaincre les non-vaccinés, qui est quand même le sujet... Numéro 1, on en a parlé en début d'interview.
Donc aujourd'hui, en cette semaine de rentrée, vous dites que quasiment toutes les entreprises appliquent les 3 jours de télétravail par semaine.
Je peux pas mesurer, mais je vois pas. En tout cas, je ne rencontre pas de patrons qui ne les appliquent pas et je vois pas de problème particulier.
Un mot sur les sanctions qui sont prévues en cas de non-respect du télétravail, avec une amende administrative qui peut aller jusqu'à 1 000 euros par salarié dans la limite de 50 000 euros. Ces sanctions vous semblent-elles, Geoffroy Roux de Bézieux, raisonnables ou disproportionnées?
C'est surtout le signal qui a été envoyé, si vous voulez. Ça fait 2 ans que les chefs d'entreprise se battent aux côtés de leurs salariés pour continuer l'activité économique. Ça s'est plutôt bien passé. Quand même, on sort de 2 ans de pandémie, très peu de conflits sociaux. En général, il y a toujours des exceptions, ça se passe dans le dialogue. Et là, la ministre du Travail vient mettre un peu de l'huile sur le feu en disant « oui, il y a quelques entreprises qui jouent pas le jeu ». C'est-à-dire, mettre une mesure qui médiatiquement pointe du doigt les entreprises pour justement quelques, entre guillemets, délinquants, ça me paraît de la mauvaise politique.
Face au rebond de l'épidémie, le gouvernement italien a décidé hier d'instaurer l'obligation vaccinale pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans. Édouard Philippe, hier, disait qu'il était favorable à l'obligation vaccinale. Est-ce que vous avez un avis sur la question?
Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est l'obligation vaccinale. C'est-à-dire, est-ce que c'est une obligation qui derrière donne lieu à une sanction judiciaire, ou est-ce que c'est une obligation qui donne lieu à l'interdiction de faire un certain nombre de choses? En fait, si c'est la deuxième solution, on y est déjà. Puisque si vous n'êtes pas vacciné aujourd'hui, enfin demain, quand le pass vaccinal sera, vous ne pourrez plus faire un certain nombre d'activités. Et donc après, c'est l'équilibre.
C'est une obligation vaccinale sans le dire, en fait, le pass
vaccinal
pour vous.
Oui, je pense, en réalité. Alors, je sais pas ce qui se passe en Italie, mais je crois que c'est la Cour européenne de justice qui a interdit le fait de mettre des pénalités, des amendes ou des sanctions quand on n'est pas vacciné. Vous savez, le vaccin de la rougeole, c'est moins de 80%, autour de 80%. Il est obligatoire. Mais tout le monde n'est pas vacciné. Il n'y a pas de sanctions pour autant.
Venons-en à l'inflation. Elle est à 2,8%, niveau sans précédent depuis plus de 20 ans. Craignez-vous que cette inflation continue à monter dans les mois qui viennent?
Oui, alors j'étais un peu seul à le dire il y a 3 mois. Je pense qu'on est parti pour une période longue d'inflation à un niveau qu'on n'a plus connu depuis longtemps. Mais il faut relativiser les choses. C'est-à-dire, si on est à 3 ou 4% d'inflation en 2022, Les plus anciens d'entre nous, je sais pas quel âge vous avez, cher Nicolas, se souviennent quand même qu'on a connu 10-15% d'inflation.
J'ai cet âge-là.
Bon, je veux pas être...
Ça veut dire que je suis plus jeune.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, moi. Mais, alors, c'est compliqué à gérer parce qu'on n'en a pas l'habitude. Ça suppose que les entreprises puissent passer dans la chaîne de valeur les prix. C'est vrai en prix public, hein, mais aussi en prix B2C. C'est-à-dire que les sous-traitants puissent facturer plus cher à leur donneur d'ordre. Donc ça crée des tensions. Mais en soi, 4% d'inflation, 3% d'inflation, c'est pas un mal absolu.
C'est pas un mal absolu, mais quand on regarde sur certains produits, prenez le beurre par exemple, il a augmenté de 30% le prix du beurre aujourd'hui.
Ouais, alors, dans cette inflation, il y a, je pense, du conjoncturel et du structurel. Il y a des goulots d'étranglement qui brusquement font que certains produits augmentent de manière déraisonnable. Vous avez cité le beurre, il y a eu le prix du bois, il y a... des sujets sur les pièces de vélo, etc., etc. Et puis, il y a du structurel. Là, au cas particulier, moi, j'ai une entreprise qui fabrique des gâteaux au chocolat, et quand vous mettez 30% sur le beurre, bah, il faut augmenter le prix du produit final, non pas de 30, évidemment, mais de 3-4%.
Mais ce qui arrive, et on voit déjà, les galettes coûtent plus cher, ça commence à monter.
J'ai pas été voir le prix des galettes frangipane ou brioche, j'ai écouté votre chronique tout à l'heure en venant.
Il y a
un retour de l'inflation, et je pense qu'il est, alors, durable, je sais pas si c'est pour 10 ans, mais en tout cas, faut pas croire que c'est juste une petite flambée.
Et donc, il faut que le gouvernement agisse, ou pour l'instant, c'est trop tôt?
Je crois surtout qu'il faut laisser le marché faire. C'est qu'il faut qu'il y a des ajustements,
Bah parfois, quand on laisse le marché faire, les prix explosent.
Oui, explosent. Je sais. Attendez. Bah
vous l'avez vécu.
Si c'est conjoncturel, c'est pas très gênant. Si c'est structurel,
vous nous dites que c'est structurel.
Oui, mais pour certains produits, c'est conjoncturel. Pour d'autres, c'est structurel.
Face à cette inflation qui monte, se pose la question des salaires. Vous aviez, Geoffroy Roux de Bézieux, à ce micro, dit que les augmentations de salaires arriveraient début 2022. On y est. Je voudrais citer Léa Salamé, « Show me the money ». Ça y est, alors?
Oui, écoutez, vous avez d'abord l'exemple peut-être le plus emblématique, hein, qui est le secteur de la restauration. Thierry qui a signé un accord de branche avec une revalorisation de tous les minima autour de 10%. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça le signal. Ce qui est significatif. Alors, c'est
10%. Vous parlez de l'hôtellerie-restauration. Pardon, ils gagnaient moins que le SMIC, hein.
Oui,
c'est un rattrapage, ce n'est pas une augmentation de salaire.
Oui et non, mais en tout cas, c'est une augmentation des minima qui rattrape le SMIC. Vous avez, par exemple, les banques qui, ce matin, il y a un article chez un de vos confrères, qui, pour la première fois depuis 10 ans, font des augmentations générales en plus des augmentations individuelles. Donc, oui, on
vous
y est.
Vous trouvez que c'est suffisant?
Après, pardon, juste pour finir. Après, ça dépend vraiment de la situation des entreprises et des secteurs. Si vous me dites, l'événementiel va-t-il augmenter les salaires? Non. Parce que la situation n'est pas bonne. Mais globalement, on sort d'une bonne année 2021 pour les entreprises. Encore une fois, en masse. Et donc, comme il y a eu 2 ans de vache maigre, oui, il y aura des augmentations de salaire.
Mais vous lancez
Juste dernière chose. Il y avait une très très bonne année en termes de participation et d'intéressement. Il y avait une mauvaise année en 2021 sur l'année 2020. Mmh. Il y aura une très bonne année en 2022 sur l'année 2021.
Mais est-ce que vous lancez ce matin à notre micro un appel à la responsabilité des chefs d'entreprise? Est-ce que vous dites au patron, allez-y, augmentez les salaires, l'économie va bien, il faut que les gens le ressentent.
Les SME, ils n'ont pas besoin de moi pour ça, c'est ce qu'ils font.
Quand on voit le niveau des salaires par rapport à nos voisins européens, on peut se demander.
Vous me parlez d'augmentation, pas de niveau. C'est ce qui est en train de se produire. Je vous l'avais dit il y a 3 mois, c'est en train d'arriver. Vous m'avez dit show me the money, elle est en train de se produire. Mais il y a un autre point qui est assez fondamental, c'est que le marché du travail s'est retourné en termes d'offres et de demandes. Aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, il y a des pénuries de recrutement. Alors, on se plaint du marché très souvent, peut-être à tort, peut-être à raison, mais aujourd'hui, dans un de secteurs, c'est... pas dire que c'est le salarié qui fixe son salaire, mais si vous êtes consultant en informatique, vous êtes dans une position, alors c'est pas le cas de tout le monde.
Oui.
Donc, de manière structurelle, la baisse du chômage a un effet favorable, évidemment, sur les salaires.
Quels secteurs restent en tension? Quels sont les secteurs où on cherche encore beaucoup de main d'œuvre et on n'en trouve pas?
Je vais vous faire la réponse à l'inverse. Quels sont les secteurs qui n'ont pas de tension? Moi, je ne rencontre que des chefs d'entreprise qui ont des problèmes de recrutement. Les seuls qui n'ont pas de problème de recrutement, c'est ceux qui recrutent pas. J'ai fait beaucoup de tournées terrain là sur le mois de décembre. Tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise, toutes les géographies sont en difficulté de recrutement. Il y avait les métiers en tension, enfin ce qu'on appelait les métiers en tension traditionnellement, le bâtiment, la restauration. Aujourd'hui, c'est généralisé.
Donc, il n'y a plus un secteur qui ne cherche pas à recruter.
Enfin, tous ceux qui vont bien et qui ont besoin de recruter ont des difficultés. Ils ne trouvent pas.
Et alors,
exagéré. Ils ont du mal à recruter.
Du coup.
Du coup,
Nicolas, quand vous entendez certains candidats à l'élection présidentielle, je pense à Éric Zemmour notamment, qui dit qu'il faut un schéma d'immigration zéro, qui dit qu'il faut fermer les frontières, zéro immigration. Qu'est-ce que le patron du MEDEF, comment il réagit à cette question, je dirais pas sur un point de vue moral, mais sur un point de vue économique?
Alors, j'allais vous dire, bon, il y a un sujet de, j'allais dire, d'unité nationale, d'intégration, etc., qui n'est pas le mien en tant que patron du MEDEF, en tant que citoyen, oui, mais je suis pas là en tant que citoyen. Sur le plan strictement économique, on est à 7% de chômage. Quand on va arriver, dans certaines régions, on y est déjà à 4% de chômage, et si on veut continuer à faire de la croissance économique, oui, on a un problème d'imaginer qu'on n'est pas de main-d'œuvre étrangère. Après, il faut trouver le bon équilibre. Nous, ce qu'on sait faire, au fond, les chefs, j'ai envie de vous répondre comme ça, c'est que si le pouvoir élu décide qu'il y a un quota d'immigration par an, alors notre job à nous, c'est de les intégrer. Il n'y a pas une meilleure façon de s'intégrer dans un pays que d'y travailler. Mmh. Parce que vous payez vos impôts, vous payez des cotisations, vous apprenez la langue, etc., etc.
Dans un schéma d'immigration zéro, Éric Zemmour dit que des travailleurs français seraient contraints de travailler dans des secteurs comme le bâtiment, qui emploie beaucoup de main-d'œuvre étrangère, et que ça obligera de fait les employeurs à mieux rémunérer ces emplois-là. Que pensez-vous du raisonnement ou de l'argument?
C'est un petit peu ce qu'essaye de faire Boris Johnson. En Angleterre, puisque vous savez qu'il a fermé, alors c'est les frontières intra-européennes essentiellement, et aujourd'hui en Angleterre, il y a plus d'un million d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et là, ça commence à peser sur la croissance, sur la création de richesses du pays. Donc je suis pas sûr que ce soit la bonne solution.
On file au standard sur la question des salaires au sens large. Je salue Bernadette. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, bonjour à France Inter, meilleurs voeux à tout le monde.
Merci.
Petite question.
Merci
à monsieur Geoffroy Roux de Bézieux. Comment se fait-il que, puisque l'économie se porte plutôt bien, je vous cite monsieur, des gens de classe moyenne, par exemple, des gens, des plombiers, des électriciens qui sont salariés, des ambulanciers, des gens, des infirmières libérales, que ces gens-là, vers certaines régions de France, en tout cas dans l'Hérault, n'arrivent pas à joindre parfois les deux bouts. Ils ne profitent d'aucune aide. Aucune, ça c'est clair. Ils paient des impôts. Ben, croyez-moi, en ce moment, augmentation des loyers et augmentation de produits alimentaires, j'en passe et des meilleurs, puisque tout suit. Comment se fait-il donc que du fait que tout se porte plutôt bien, du moins que l'économie va bien et c'est à mieux, ces gens-là sont en train de pâtir. Je vous assure que la France de ces gens-là, ces classes moyennes, je les vois, les écoute, pâtissent. J'attends vraiment votre réponse.
Merci. Merci Bernadette pour cette question. Geoffroy Roux de Bézieux.
Ouais, c'est une question difficile parce que c'est la différence entre les statistiques de pouvoir d'achat. L'INSEE dit la France, je crois, c'est un quelque chose, 1,2, je crois, l'année dernière, et le vécu des gens qui ont l'impression, effectivement, entre guillemets, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts et d'avoir finalement le reste à dépenser en fin de mois très très faible. Je pense qu'il y a un sujet logement-énergie qui est sous-estimé dans notre pays. C'est-à-dire le prix de l'énergie de manière structurelle va continuer à augmenter à cause du changement climatique et le coût du logement. Alors elle parlait de l'Hérault, moi je pense que les gens qui soufflent le plus c'est dans les métropoles parce que le coût du logement est évidemment plus fort. Nous à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Augmenter les salaires, ce qui est en train de se produire, mais ça suffira pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi le sujet de à quel moment on touche des aides, à quel moment on les perd et l'écart entre les deux. C'est un problème plus collectif que celui des entreprises seules, me semble-t-il.
Hervé au standard, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Je suis petit patron de deux petites entreprises et je vais vous poser une question. Je ne comprends pas pourquoi vous avez refusé, allié avec les syndicats de salariés, l'instauration d'un pass sanitaire à l'entrée du travail dans les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on demande un pass sanitaire quand on va au cinéma passer 2 heures et qu'on ne va pas le demander aux entreprises où on va passer 7 ou 8 heures? Est-ce que vous ne pensez pas que, en prenant ce type de position, vous avez une attitude aussi peu citoyenne que celle des anti-vax?
Merci Hervé pour cette question franche et nette. Geoffroy,
je vais vous dire la vérité, on a eu un débat au sein du MEDEF là-dessus. Parce que tout le monde n'était pas, et il y a des gens qui, comme Hervé, avaient exactement la même position. Simplement, je l'ai un petit peu expliqué, le pass sanitaire, c'est soit vous êtes testé, soit vous êtes vacciné. Et comme on pouvait pas savoir, parce qu'il y a le secret médical pour le salarié, ça veut dire qu'il faut contrôler tous les matins le pass sanitaire dans toutes les entreprises. Ça pose des problèmes sur les salariés nomades, ça pose des problèmes sur des établissements multiples. Mmh. Et donc, de manière opérationnelle, c'était pas le bon système.
Karine précise la question de notre auditeur, Karine sur l'application France Inter. Pourquoi les restaurants d'entreprise ne sont pas soumis au pass sanitaire ? Dans mon entreprise, 800 personnes sont brassées chaque jour. Par ailleurs, elle vous pose une deuxième question. Peut-on demander à l'employeur des masques FFP2 si on travaille avec des non-vaccinés ?
Alors, c'est deux questions très différentes. Ouais. Vous voyez, sur la première, nous, on n'est pas défavorable au fait que le pass sanitaire, que les règles de restauration collective soient alignées sur les règles de restauration commerciale. Ça serait assez logique.
Donc, le pass sanitaire. Donc, vous êtes pour le pass sanitaire à l'entrée à la cantine.
Quand il y a des grands
quoi.
Établissements, mais alors, il faudrait à ce moment-là supprimer les distances, puisque vous avez les distances aujourd'hui qui sont un peu l'équivalent, entre guillemets. Bon. Sur les masques FFP2, la loi n'y oblige pas, mais je pense que c'est une mesure de bon sens de dire, je parlais de l'exemple de la PME où il y a une personne non vaccinée. En fait, on ne le sait que dans les petites entreprises, parce que les gens se parlent, quoi.
Alain, au standard. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour.
Et bonne année à tous. Bah voilà.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai eu l'occasion de travailler à Marseille dans une compagnie maritime, la troisième mondiale, donc ça parle à tout le monde.
Ouais.
Et je peux vous dire qu'avant le Covid, il y a eu des services entiers de délocalisés au Pakistan, en Inde, en Europe de l'Est. Et le Covid aujourd'hui fait que les gens sont en télétravail. Mais je pense que le Covid a bon dos et j'espère, je souhaite de tout cœur pour mes collègues qui travaillent encore de rester travailler à Marseille et non pas être se retrouver sur le carreau.
Merci Alain pour cette question. Télétravail, autre forme de la délocalisation d'un certain nombre de services, c'est en substance ce qu'il disait.
Oui, enfin ça date pas du Covid, il y a des centres d'appel en Inde ou en Afrique. Moi, je constate simplement que c'est quand même en train de se ralentir, soit même de se retourner, parce que la qualité de service est quand même compliquée à gérer. Il n'y a pas un mouvement massif de relocalisation, mais en tout cas, le Covid a plutôt arrêté les choses, et on se repose des questions. C'est vrai pour les services, c'est vrai aussi pour l'industrie. Les pénuries dont vous parliez, elles montrent aussi qu'on ne peut pas dépendre complètement de l'étranger.
Encore une question sur le sanitaire. Deux réactions en fait sur l'appli. Audrey, concernant le télétravail, le MEDEF représente les grands patrons. Il a peut-être raison en disant que beaucoup respectent la règle du télétravail parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes dans ces entreprises-là. C'est vraiment une autre histoire dans les petites et les moyennes entreprises et les TPE. Écureuil, bon, il s'est fait appeler comme ça. Je suis dans un groupe régional, presque personne ne télétravaille chez nous. Peut-être à Paris, mais pas en province. Voilà.
Alors, juste, le MEDEF ne représente pas les grands patrons. 47 salariés par entreprise en moyenne. Mais bon, au-delà de ça, je ne sais pas quoi répondre parce que, si vous voulez, on n'a pas de statistiques mesurables. Aujourd'hui, il faudrait avoir un système de contrôle qui est évidemment pas souhaitable. Moi, simplement, ce que je peux vous dire, c'est que les remontées que j'ai de toutes les branches sont plutôt qu'on est en train d'appliquer la loi. Voilà, alors il y a forcément des exceptions sur lesquelles je ne peux pas commenter particulièrement.
Michel au standard, bienvenue, bonjour.
Oui, bonjour, et meilleurs voeux à tous. Et
à vous aussi.
Donc moi je voulais, je m'aperçois que de jour en jour, l'indice CAC 40 bat des records, et malheureusement les cas positifs d'Omicron battent aussi malheureusement des records. Donc j'aimerais demander à Monsieur Roux-de-Bézieux si il n'a pas le sentiment que l'économie a gagné par rapport à la santé. Voilà.
Merci pour cette question. Geoffroy Roux-de-Bézieux vous répond.
Je comprends que le symbole puisse interroger. Le problème de la bourse, c'est que la bourse, elle anticipe un an et demi, deux ans à l'avance. Donc la bourse, elle s'installe dans le post-Covid. Et elle, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle pense que l'économie a des fondamentaux solides et que la reprise est là. Alors c'est vrai qu'entre le quotidien des Français qui sont confinés, enfin pas confinés, mais empêchés d'aller là où ils veulent, qui sont victimes, enfin, ou sujets au Covid, et ce symbole du CAC 40, je comprends la difficulté à percevoir, mais d'une certaine manière, ça montre simplement que l'avenir est plutôt positif, en tout cas anticipé par les marchés mondiaux.
Quand vous voyez la valorisation boursière d'Apple atteindre les 3000 milliards de dollars, Microsoft 2420 milliards de dollars, 1880 milliards de dollars pour Google, quelle est votre réaction et peut-être aussi votre analyse ?
Deux choses, j'aurais bien aimé que Bill Gates ou Steve Jobs soient français. Parce que si le siège d'Apple était en France, si le siège de Microsoft était en France, on aurait une économie française beaucoup plus prospère. Il y aurait d'ailleurs plus payé d'impôts en France, au passage, ou en Europe. Bon, c'est pas le cas. Les Américains ont cette capacité à produire des champions mondiaux. Et la deuxième chose, c'est que dans les deux cas, on est face à des quasi-monopoles mondiaux. Quand je dis quasi-monopole, c'est pas un monopole de fait au sens, je sais pas quoi, la SNCF. Enfin, feu, là, ça, en l'occurrence, c'était un monopole, ça l'est plus. Et que ça pose un problème sur, finalement, comment la concurrence, et notamment européenne, peut faire face. Nous, on a soutenu au MEDEF l'impôt qu'a mis en place Bruno Le Maire sur les GAFA. Et c'est quand même assez rare que le MEDEF soutienne un impôt, en général. Mais c'est une question d'égalité de concurrence. Je pense que le numérique pose un problème de fond qui se pose pas dans d'autres marchés, je sais pas, l'automobile, etc. C'est que ça crée des monopoles.
Et il y a un problème d'innovation ici par rapport à ces entreprises que je viens de citer.
Le marché, innovation, les États-Unis, recherche, c'est un pays, extrêmement dur, très dur pour les gens qui réussissent pas, mais qui permet des innovations absolument incroyables. Est-ce qu'on peut arriver en Europe à faire la même chose sans avoir le côté dur des Américains, enfin, dur au sens pour les populations? Je sais pas, c'est la grande question. J'entendais Madame von der Leyen à votre micro tout à l'heure. Je pense que c'est le grand défi de l'Europe, au-delà du changement climatique.
Dernière question, il y a un thème qui commence à monter dans la campagne présidentielle, parce qu'il n'y a pas que le Covid. C'est la question sur l'héritage et les transmissions de patrimoine. Dominique Seux en parlait dans son édito. Emmanuel Macron s'est exprimé hier sur le sujet en disant qu'il faudra améliorer les choses dans le sens de faciliter les transmissions. C'est clairement une position défendue par la droite et l'extrême droite notamment. Valérie Pécresse veut faciliter les donations et l'héritage transmis de génération en génération. Elle veut que un père, une mère puisse donner 100 000 euros, je crois, tous les 6 ans. À leur enfant, même chose pour les grands-parents. Ça va dans le bon sens, ça, ou ça va accroître les inégalités?
Je vais pas commenter Dominique Macron, je vais commenter Dominique Seux.
Vous avez Dominique Macron.
Emmanuel Macron. Le problème en France, c'est bon, l'héritage est plutôt taxé, faut pas le taxer plus, mais on a un problème sur les entreprises. On a besoin d'entreprises familiales parce que c'est celles qui résonnent au plus long terme. C'est pas la bourse, les entreprises familiales. C'est en général, je pense, à 10, 20, 30 ans. Et c'est elles qu'il faut préserver plutôt que d'autres héritages.
Donc il faut faciliter les transmissions familiales d'entreprises familiales, c'est ce que vous dites. Et pas forcément les transmissions donations.
Des autres biens.
Merci Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Merci à vous.
Président du MEDEF, d'avoir été à notre micro ce matin. La revue de presse à suivre.
France Inter.